Dimanche 17 avril 2022, une semaine avant le second tour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre troisième émission P2022 qui clôt notre série sur les élections présidentielles de cette année. Alors que nous sommes en plein entre-deux-tours, un sentiment d'amertume souffle sur cette élection électorale. Dans cette émission réalisée par Elias Mulsten, Maxime Lecoux et moi-même Florent Arnold, nous allons répondre à la question suivante. D'où vient le dépit de ces électeurs et comment s'est-il traduit dans les urnes dimanche dernier, 10 avril 2022? Maxime Lecoux nous éclaire sur les raisons des 26% d'abstention décomptée, prévisible depuis déjà plusieurs semaines.
Après 5 années de contestation, Emmanuel Macron brigue un second mandat de président de la République. Durant ces dernières années, les Français n'ont cessé de remettre en question les décisions prises par l'ancien ministre de l'économie de François Hollande. Mais pourtant, malgré ce désir de changement, l'abstention pourra atteindre un nouveau record lors de cette élection présidentielle de 2022. Selon une étude de BVA, c'est surtout les 25-34 ans qui ne feraient pas les déplacements, avec près de 44% d'entre eux qui s'abstiendraient de voter. Pour justifier cela, ils invoquent plusieurs raisons. Tout d'abord, la raison principale est un ras-le-bol politique. Avec les nombreux scandales qui éclatent au fur et à mesure et qui concernent la majorité des candidats, les électeurs ne voient pas l'intérêt d'aller voter. La seconde raison évoquée est que peu importe le résultat, cela ne va pas changer leur quotidien, car ils se sentent trop éloignés des différents politiques et ne se reconnaissent pas en eux. Enfin, la troisième raison mise en avant par les abstentionnistes est que le résultat est déjà connu avec la probable victoire d'Emmanuel Macron, donc aller voter est inutile à leurs yeux.
Merci Maxime. 41% des 18-24 ans ne se sont pas rendus aux urnes au premier tour. Elias Mulsten est allé recueillir l'impression de ces jeunes sur cette campagne à l'aune de ce premier tour, largement critiqué par les spécialistes.
La campagne du premier tour des élections présidentielles touche à sa fin. L'heure est au bilan, et nombreux sont les observateurs à le critiquer. Une campagne de merde selon Jean Lassalle, une campagne décevante selon les autres. Mais qu'en pensent les jeunes? Marion, étudiante en communication à Grenoble, ne l'a pas vu passer.
Comment est-ce que je qualifierais cette campagne? Je pense que je dirais plutôt inexistante, parce que franchement, à part quelques hashtags que je vois passer sur Twitter et des infos, parfois par exemple des affiches dans la rue, je vois pas grand-chose.
Pour Ulysse, si la campagne est décevante, c'est aussi à cause de l'engagement tardif d'Emmanuel Macron.
Et malgré toutes les petites phrases de Macron, tous les petits trucs de la réputation d'énorme arrogant qui lui colle à la peau, voir que t'as quand même un quart des Français qui votent pour lui, je pense que ça montre que les gens en vrai ils votent un peu par défaut. Ouais.
Malgré tout, ils savent déjà pour qui ils vont voter. Hors de question pour Marion comme pour Ulysse d'être abstentionnistes pour leur première présidentielle.
Merci Elias pour ces témoignages. Et si la grande perdante de ce premier tour était la jeunesse? Un vent de colère et de déception s'est emparé des jeunes lors de l'annonce des résultats du premier tour. Ils estiment qu'on leur a volé l'élection. Les 18-24 ans ont majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon dimanche 10 avril. Une tendance renforcée chez leur aîné de 25 à 34 ans, chez qui le candidat de la France Insoumise a obtenu 34% des voix. Malgré cela, le candidat de l'Union Populaire est resté à la troisième place et est éliminé. Ce ressentiment s'est matérialisé au lendemain du premier tour par le blocage de l'École normale supérieure de Paris par ses étudiants. Tout au long de la semaine, des étudiants se sont mobilisés sur d'autres sites universitaires. La Sorbonne, Sciences Po Paris et l'antenne de Sciences Po à Nancy ont également été occupées. Quelles sont les raisons de cette importante mobilisation étudiante dans l'entre-deux-tours? Le président Emmanuel Macron a déclaré: Je pense que la démocratie est faite de règles. Si on se met à contester toutes les règles, ça devient l'anarchie. S'agit-il donc d'une simple non-reconnaissance des résultats du premier tour? J'ai posé la question à Jean-Baptiste, étudiant et militant soumis à Sciences Po à Paris.
Cette histoire de on reconnaîtrait pas les résultats, j'ai l'impression que c'est un concours de LREM, à savoir qui est le plus débile d'entre tous. Nous, enfin, les résultats du premier tour, ils sont ce qu'ils sont. Maintenant, nous, on n'est pas satisfait de ces résultats parce que on se retrouve encore une fois avec un second tour, on va faire barrage à une fasciste. Et on n'a aucune alternative intéressante qui est présentée. Donc, comme beaucoup de gens ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et beaucoup de gens ont une envie de mobilisation, c'est le moment de agir dans les facs pour que nos mots d'ordre soient entendus pendant l'entre-deux-tours, la justice sociale, la justice écologique, l'antiracisme, le féminisme.
Et cette mobilisation par ce contexte et ses revendications a pris une grande ampleur. Ils étaient des centaines d'étudiants à s'être mobilisés à la Sorbonne. Paul, qui est étudiant en économie, a ainsi pris part à sa première manifestation.
J'étais présent, enfin, plus ou moins. J'ai vu qu'il y avait une manifestation, j'ai juste été voir.
Et puis le soir, il y avait une manifestation au Panthéon. J'ai été également dedans et j'ai écouté. À Sorbonne, il y avait un peu plus de revendications. Il y avait aussi contre Marine Le Pen, contre Macron. C'est surtout ça, c'était surtout pour le vote blanc. Donc moi, je trouvais ça cool. Et puis de comprendre aussi les étudiants, comment eux, ils percevaient la chose. Donc c'est la première manif, entre guillemets, que j'ai fait. Et non, c'était très intéressant. Je pense que je grandis aussi, que je me rends compte des urgences qui commencent à arriver entre nous pour les jeunes. Donc je commence vraiment à m'impliquer également. Et aussi, on ne va pas se mentir, c'est l'environnement. Depuis que je suis arrivé à Paris, à la Sorbonne, enfin, c'est vraiment un environnement beaucoup plus militant que là où j'étais avant à Nancy. Donc je pense que ces deux cumuls font que je m'apprête beaucoup plus aux événements qui peuvent se passer et donc aussi à la discussion politique.
Si la Sorbonne a été évacuée jeudi 14 avril par les forces de l'ordre, le blocage de Sciences Po Paris a pris fin le même jour après l'intervention de militants d'extrême droite, armés de gazeuses et de manches de pioche. Jean-Baptiste y était présent et revient sur ce que signifie, pour lui, cet événement violent.
Deux choses. D'abord que, comme on le dit depuis des mois, l'extrême droite, elle est en roue libre et elle a quartier libre un peu partout en France. Il y a de plus en plus d'agressions d'extrême droite dans des facs, dans des quartiers populaires, un peu partout. Et on ne prend pas cette menace, elle n'est pas vraiment prise au sérieux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que c'est une bonne occasion de rappeler qu'il y a une candidate fasciste au second tour, c'est Marine Le Pen, et que si elle est élue, ces groupes-là, ils auront encore plus le droit de faire ce qu'ils voudront. Et que donc, il y a... Certes, les deux candidats qui sont au second tour sont de mauvais candidats, mais il y a une différence sérieuse entre le néolibéralisme autoritaire de Macron et le fascisme de Marine Le Pen.
Vous l'avez compris, même si selon les organisations présentes au sein de ces mobilisations, l'appel au barrage est plus ou moins direct, ce que ces étudiants scandent pour le second tour est clair. Ni Macron, ni Le Pen. Mais surtout pas Le Pen. Si certains arriveront à choisir un candidat pour qui voter au second tour, beaucoup d'autres pourraient choisir l'abstention en signe de protestation, face à ce qui est qualifié de non-choix et de dilemme. Mais l'abstention est-elle une fatalité et la meilleure solution qui s'offre à nous face à cet agacement grandissant? Voici un tour d'horizon des autres options qui s'offrent aux Français. Une semaine après le premier tour et pile au milieu de l'entre-deux-tours, un sentiment commun plane sur cette élection présidentielle. Un sentiment de déception et de mécontentement partagé par les citoyens de tous bords politiques. Un goût amer causé par la tournure médiatique qu'a prise cette campagne. Une période électorale qui n'a pas été à la hauteur des enjeux, n'éclairant pas assez le fond de chacun des programmes. Comme l'a rappelé Maxime précédemment, face à cette déception, comme chaque année, les Français sont de plus en plus nombreux à s'abstenir de se rendre aux urnes. Pourtant, trois choix s'offrent aux Français pour témoigner leur mécontentement face aux urnes. L'abstention, le vote nul et le vote blanc. Si les deux derniers choix peuvent paraître très similaires, il est important d'en connaître les différences et l'enjeu que porte le vote blanc. Le vote nul consiste à glisser dans l'urne un bulletin officiel sans enveloppe, déchiré ou annoté. Pour voter blanc, il suffit de rendre une enveloppe vide de tout bulletin. Avant la loi du 21 février 2014, les bulletins blancs étaient assimilés à des votes nuls. Mais depuis maintenant 8 ans, les votes blancs sont décomptés séparément des votes nuls et annexé à part sur le procès-verbal dressé par les responsables du bureau de vote. Cependant, à ce jour, en France, les votes blancs n'ont aucun impact sur le résultat d'une élection. Pourtant, nombreux sont les personnalités politiques à estimer que le vote blanc est porteur d'un réel enjeu politique et démocratique, théorisant qu'il pourrait permettre de mettre fin à cette dynamique grandissante d'abstention. La moitié des candidats à cette élection présidentielle ont ainsi intégré la reconnaissance du vote blanc dans leur programme. Dimanche dernier, peu importe le bulletin que vous avez placé ou pas dans l'urne, rempli, blanc ou annoté, il s'agissait d'un acte politique que vous avez réalisé. Lourd de conséquences, et donc un choix, loin d'être anodin. Et c'est la fin de notre émission. Merci à tous d'avoir suivi cette série audio sur cette campagne présidentielle. C'était les étudiants du Master Journalisme et Médias Numériques de Metz pour vous éclairer sur les enjeux de cette période électorale. Bonne journée ou bonne soirée à vous.